Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quartier Direct, l'émission du Bondy Blog et de Mediapart. Pour ce sixième épisode, on va parler de sécurité et on va parler de gauche aussi, en se demandant est-ce que la gauche sait penser la sécurité. Pour tenter de répondre à cette question, on va faire un focus sur la ville de Saint-Denis, où le maire socialiste élu au printemps, Mathieu Hanotin, a voté l'armement de la police municipale. Une disposition votée en septembre qui a été validée par le préfet de Seine-Saint-Denis en décembre et qui a provoqué de vifs débats au sein de la gauche locale, mais aussi au-delà. Au même moment, le projet de loi sécurité globale et l'affaire Zecler notamment ont mis de nouveau sur le devant de la scène les thématiques de sécurité et donc une difficulté parfois pour la gauche à se positionner sur ces questions-là d'Europe écologie et vert, jusqu'à la France insoumise. Pour parler avec nous de cette question, on a invité Virginie Malocher. Vous êtes sociologue à l'Institut Paris Région. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous. Sophie Rigard, vous êtes élue d'opposition place publique à la mairie de Saint-Denis. Mm-hmm. Bonjour.
Bonjour.
Donc quand on évoque le thème de la sécurité, on a tendance à penser que c'est une thématique plutôt réservée à la droite. Est-ce que, selon vous, c'est une idée reçue ?
Je ne sais pas si c'est une idée reçue... À l'échelle nationale, en tout cas, enfin au plan global, pour le dire comme ça, c'est vrai qu'on peut encore aujourd'hui schématiquement, mais vraiment très schématiquement, presque caricaturalement, tracer comme ça des grandes lignes, l'une de droite, l'une de gauche, quant à la manière de penser la sécurité. Ceci étant, enfin, vraiment, quand on s'intéresse à ce qui se joue au niveau local, mais vous pourrez peut-être en témoigner, cette idée-là, effectivement, semble être une fausse idée ou une idée reçue, parce que dans le fond, l'approche est souvent beaucoup plus... pragmatique du côté des élus locaux. Alors quand je dis ça, ça ne veut absolument pas dire que l'approche à l'échelle locale est complètement désencombrée des positions idéologiques ou des jeux politiciens. Mais enfin, le clivage gauche-droite, pour le dire comme ça, et l'étiquette des élus locaux ne conditionne pas, ne suffit pas en tout cas à conditionner la nature des orientations, des actions mises en œuvre en matière de sécurité. Mais clairement, les questions de sécurité sont des thématiques qui ont été appropriées par la gauche dans son vaste ensemble, même s'il n'y a pas une doctrine uniforme au sein de ce vaste ensemble qu'est la gauche. Mais ce que je dis là, ça vaut pour le vaste ensemble qui est la droite aussi. Il y a des lignes de fracture et d'opposition. Mais voilà, l'idée sécurité première des libertés, c'est devenu un quasi-poncif du débat public.
Prise par des personnalités de gauche comme de droite.
Exactement, et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et en tout cas, le succès de cette formule, pour le dire ainsi, montre bien que les enjeux de sécurité sont effectivement devenus structurants, y compris dans l'argumentaire politique de gauche, même si, une fois de plus, il n'y a pas de ligne ou de position uniformément établie pour la gauche sur ce sujet-là, quoi.
Sophie Rigard, vous, est-ce que vous estimez que la gauche a du mal à établir une ligne quand on parle de sécurité et que la droite prend toute la place sur ces thématiques-là ?
Mais je pense que c'est une question de rapport à ces sujets, de complexe par rapport à ces sujets. La gauche a toujours été un peu complexée d'aborder ces sujets et la droite a toujours joué avec la gauche justement en essayant de la mettre devant le mur et de la montrer comme idéologique, niant les problèmes et renonçant en fait à traiter ces sujets-là. Peut-être que la gauche n'a pas réussi à prouver l'efficacité, peut-être par manque d'évaluation, l'efficacité ou le bien fondé des politiques qu'elle pouvait mener, des politiques qui étaient sur les questions de santé, sur les questions sociales, sur les questions de logement, les conditions de vie. Donc ça, c'est peut-être un défaut historique qu'on peut reprocher à la gauche. Après, je pense que le sujet sécurité naît comme une préoccupation des Français beaucoup après Sarkozy. Enfin, en tout cas, c'est Sarkozy qui en fait un sujet de campagne et en fait un sujet pour gagner, clairement. Il fait émerger la question... beaucoup de la question de sécurité, mais aussi la question de sécurité liée à la question de l'islam. C'est quand même une stratégie de campagne, une stratégie de victoire de Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'après, la ligne Valls-Cazeneuve a aussi beaucoup contribué, en tout cas, à entériner une forme de positionnement de la gauche sur ces sujets, et avec ça a entériné en fait l'espèce de clivage entre les pragmatiques et les idéologues. Les pragmatiques sont ceux qui reconnaissent les problèmes et qui agissent. Les idéologues sont ceux qui sont perdus dans des considérations du coup idéologiques et inefficaces.
Pour vous, le clivage aujourd'hui à gauche, il est celui-là ?
Je pense que c'est un des clivages, oui. Et je pense que Macron en fait a totalement conforté ce clivage aussi, puisque lui s'est présenté comme le pragmatique qui fait un peu de gauche, un peu de droite. Qui n'est pas dans l'idéologie. Et aujourd'hui, avoir une idéologie, c'est un gros mot en politique, ce qui est quand même particulier. Et je pense que oui, Macron a participé à ça. Et en fait, on le voit au niveau local, c'est-à-dire qu'on y arrivera, mais Mathieu Hanotin, lui, il dit « Moi, je ne fais pas d'idéologie. L'opposition fait de l'idéologie. Elle a nié les problèmes. Elle s'est cachée derrière... des paravents idéologiques et moi je suis pragmatique, moi je vais m'occuper des problèmes. On verra à la suite qu'en fait ces solutions sont totalement inefficaces de fait, mais en tout cas c'est le discours qu'il pose.
Vous pensez, vous, Virginie Malochet, que la gauche est complexée quand on parle de sécurité?
Alors je sais pas, c'est difficile de parler de la gauche au singulier, enfin vous en rendez compte et vous en témoignez d'une certaine façon. Complexe, vraiment je suis pas la meilleure placé pour le dire, l'idée qu'à gauche, on peut parler de sécurité et que ce n'est plus un tabou est quand même assez largement assumée par nombre de personnalités de gauche. Mais une fois encore, pardon, je me resitue à l'échelle locale parce que c'est plutôt sur ce qui se passe à l'échelle locale que je travaille. Il y a ces prises de position politiques, échelle nationale d'un côté, et puis il y a ce qui se joue localement. Et parfois, il y a un grand écart, hein, y compris chez les mêmes responsables politiques, entre ce qui peut se dire dans un discours construit pour être audible à l'échelle nationale et ce qui se fait localement. Une chose est sûre, en tout cas, complexe ou pas, je ne sais pas, c'est que à l'échelle locale, il y a très clairement une mobilisation, un investissement accru des élus locaux, quelle que soit leur couleur politique, leur affiliation partisane, sur ces enjeux de sécurité et de tranquillité publique. Ça, c'est très net sur ces 3-4 dernières décennies, mais avec une accélération du mouvement. Ça se justifie d'ailleurs aisément d'un point de vue juridique, parce que dans toutes les communes de France, je vais mettre Paris à part, quoique la donne est en train de changer, mais disons que dans toutes les autres communes de France, la première autorité de police, ça reste le maire ou la maire, voilà, qui, à travers les pouvoirs de police, finalement, les maires contribuent à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Ça, c'est pour le cadre juridique, mais de fait, ce que l'on constate, et là, au-delà des clivages partisans, c'est que, effectivement, les élus locaux investissent toujours plus sur ces sujets-là. Et la montée en puissance des polices municipales, le développement de la vidéosurveillance, notamment, en atteste, quoi, très, très clairement.
On va passer justement à cet aspect très, très local sur l'armement de la police municipale. Est-ce que Mathieu Hanotin, lui, n'a pas eu de mal à établir sa ligne sur cette question-là en tant qu'élu socialiste, en décidant une de ses mesures phares de son programme et en décidant dès la rentrée donc, d'armer la police municipale? Quelques chiffres, juste, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur tout le territoire, il y a 57% de policiers municipaux qui sont dotés d'une arme à feu, donc c'est les chiffres au 1er janvier 2020, et c'est une hausse de environ 12% par rapport à 2009, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, et si on prend les chiffres de la Seine-Saint-Denis, on a 51,3% de policiers municipaux qui sont armés, et la région PACA, en revanche, à la région, les policiers municipaux sont plus armés, avec 85% d'entre eux, donc on a des disparités qui sont assez importante, et vous citiez tout à l'heure Paris, aucun policier municipal n'est effectivement armé. Est-ce que en prenant cette mesure-là, cela signifie qu'il y a d'une certaine manière un désengagement de l'État et des élus locaux qui sont un peu livrés à eux-mêmes, comme première question là-dessus?
Il y a effectivement il y a des territoires qui sont inégalement dotés en effectifs de police nationale, et en particulier la Seine-Saint-Denis, ça c'est un fait. Je pense que il y a effectivement beaucoup d'élus locaux qui, d'une certaine manière, acceptent de compenser le désinvestissement de l'État pour une égalité républicaine de dotation, en tout cas, de la sécurité qui est un service public, mais qui, du coup, n'est pas également réparti sur le territoire. Donc il y a cette, il y a le fait que la préoccupation monte, que c'est un, ça devient un sujet de campagne, un sujet politique. Mais ben, Mathieu Hanotin, il passe, un, il fait un pas supplémentaire, c'est que lui considère que les villes ont un rôle à part entière à jouer sur les questions de sécurité. Et que les villes doivent s'emparer de fait, de, d'une part de cette mission régalienne. Il dit les villes ont, ont une responsabilité, ont la responsabilité d'assurer au même titre que l'État cette mission régalienne qu'est la sécurité. Et il assume totalement de dire quand on sera exemplaire, ensuite on pourra demander à l'État plus de moyens. Mais c'est... C'est en fait assez assez détonnant parce que il nie en fait comme ça, il nie justement le fait que l'État a très longtemps délaissé la Seine-Saint-Denis et c'est pas juste une question de police, c'est une question de justice, c'est une question d'école, d'éducation nationale, une question dans les hôpitaux, sur les services de juridiques, enfin de justice. Et donc lui, il fait fi en fait de ce de cet état de fait, et plutôt que de réclamer comme l'ont fait tous enfin les mandats précédents et comme le font encore beaucoup de maires de Seine-Saint-Denis, demander à l'État de remplir son rôle vraiment sur les territoires, lui dit non, je vais montrer que je vais montrer que je fais une politique sécuritaire, alors répressive, c'est clair, mais en gros, faire le bon élève pour peut-être ensuite demander plus de moyens à l'État. Et ça, je trouve que c'est une position assumée qui rompt quand même avec une certaine culture à gauche sur le sujet.
Pour mieux comprendre ces questions de compétences, Virginie Malocher, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions de la police municipale ?
C'est une bonne question, parce que le mandat juridique, si vous voulez, il est centré sur le bon ordre, la tranquillité, la salubrité, la sécurité publique. Le mandat des policiers municipaux est extrêmement large, hein, d'ailleurs, puisqu'il renvoie à l'ensemble des pouvoirs de police des maires. Et ces pouvoirs, en termes de police générale et de police spéciale, sont eux-mêmes très, très étendus. En tout cas... Sur le plan des compétences, en termes de police administrative, elles sont très larges, je vous le disais. Elles recoupent l'ensemble des pouvoirs de police du maire. Sur le plan judiciaire, elles sont beaucoup plus restreintes, hein, les prérogatives des policiers municipaux. Elles se limitent jusqu'ici au champ contraventionnel, s'agissant des capacités de verbalisation. Alors, voilà, la proposition de loi sécurité globale prévoit une expérimentation d'une durée de 3 ans permettant d'étendre le champ de compétences des policiers municipaux en matière de sécurité publique, de voie publique. Et voilà, il y a là-dessus quelques inflexions, ou en tout cas un élargissement prévu des compétences, y compris sur le plan judiciaire, même si la qualité judiciaire des policiers municipaux ne bougera pas a priori. Voilà, à voir. Mais cette proposition de loi s'inscrit dans un mouvement qui lui aussi est amorcé de manière bien antérieure, quoi, depuis la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Dans le fond, le législateur n'a cessé de renforcer les prérogatives répressives, pour le dire comme ça, des policiers municipaux, en matière de police route notamment.
Quand on décide d'armer la police municipale, comme l'a décidé M. Hanotin, ou comme vont le décider d'autres maires en Seine-Saint-Denis, comme ça a déjà été fait par exemple à Saint-Ouen ou à Aubervilliers avec la maire Karine Franklet, est-ce que ça veut dire qu'on renonce ou presque aux missions de prévention de la police municipale au profit de missions de répression ?
Pas nécessairement. Je vais vous répondre en deux temps. Analytiquement, en tout cas, il me semble qu'on pourrait dépassionner cette question-là, parce qu'analytiquement, l'arme ne détermine pas, ne prédétermine pas la doctrine d'emploi, les missions ou le comportement des agents. Je veux dire, c'est un instrument. Alors, c'est évidemment pas n'importe quel instrument, puisque ça tue l'arme létale, mais enfin, comme tout instrument, tout dépend ce que l'on en fait. Voilà, donc l'arme ne définit pas en soi le répertoire ou le registre des missions des policiers municipaux, même si ça peut avoir une incidence en termes d'image. Ça, ce n'est pas tout à fait rien. Mais enfin, l'image, ça se façonne au-delà de l'équipement. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que on peut trouver des unités de police municipale non armées qui très clairement se la jouent, si vous me passez l'expression, bac en puissance, quoi, enfin sur un registre un peu cobaye. Et à l'inverse, on trouve aussi des unités de police municipale qui s'inscrivent dans un registre avant tout préventif, pour reprendre votre terme, quand bien même elles ont le pistolet 9 mm à la ceinture. Donc une fois de plus, c'est sur le principe du moins, ce n'est pas l'arme qui conditionne la mission. Après, et c'est mon deuxième point pour vous répondre, de fait, le constat, quand on fait un peu la tournée des popotes, des polices municipales en France, quelle que soit leur taille, et une fois de plus, quelle que soit la couleur politique des maires qui les dirigent, le constat, c'est quand même celui que cette tendance à la généralisation progressive de l'armement en police municipale, parce que la décision du maire de Saint-Denis, de ce point de vue-là, s'inscrit dans une tendance qui dépasse largement le cas de Saint-Denis ou de la Seine-Saint-Denis et des exemples que vous avez cités. Donc mon constat, j'y reviens, c'est que cette tendance à la généralisation progressive de l'armement des services de police municipale va de pair, de fait, avec une inflexion sécuritaire de l'activité. C'est assez net, effectivement, et cela s'inscrit, si vous voulez, dans une dynamique d'évolution plus large des polices municipales, avec un recentrage, je vais le dire comme ça, sur les activités de verbalisation, les opérations de contrôle, les interpellations. C'est une tendance. Les polices municipales sont très diverses, mais cette tendance est forte. Il n'y a pas que mes travaux qui la soulignent. Je vous renvoie, par exemple, pour ceux que ça intéresse, au récent rapport de la Cour des comptes sur le sujet. Il y a un basculement, pour le dire comme ça, des polices municipales. Alors là encore, hein, c'est un mouvement qui a amorcé de longue date, vers un modèle plus interventionniste et répressif, pour le dire comme ça. Il y a un durcissement de l'image des policiers municipaux, de manière générale, et cette banalisation de l'armement, vous citiez le chiffre de 57% de policiers municipaux armés aujourd'hui, ils étaient 39% en 2015, donc il y a eu un bond de quasi 20 points en l'espace de 4 ans. Le contexte menace terroriste élevée n'y est évidemment pas pour rien. C'est dans ces circonstances-là que l'armement s'est imposé et que cette tendance à la généralisation a connu de forts effets d'accélération. Je rappelle que parmi les victimes des attentats de janvier 2015, il y a eu une jeune policière municipale tuée et prise pour cible.
Oui, Clarissa Jean-Philippe, exactement, à Montrouge.
À Montrouge, tout à fait. Prise pour cible pour la simple raison qu'elle portait un uniforme. Et ce drame-là, alors évidemment pris dans un contexte d'attaque terroriste à répétition, a vraiment constitué un tournant, un point d'inflexion fort dans le débat au sein des élus locaux, en tout cas, sur l'armement des polices municipales. Et c'est dans ce contexte que l'armement s'est vraiment généralisé, le terme est un petit peu abusif si l'on se reporte à vos chiffres, mais voilà, nombre d'élus locaux qui étaient jusqu'alors rétifs ou en tout cas indécis sur cette question de l'armement des polices municipales, et bien nombre d'élus locaux se sont résolus à armer leurs policiers municipaux aussi, parce que ça devient pour une collectivité extrêmement difficile aujourd'hui de recruter, d'attirer, de fidéliser des policiers municipaux sans proposer l'armement. Ça, c'est un élément dont tenir compte pour comprendre pourquoi nombre d'élus cèdent face à ces demandes d'armement.
Oui, parce que le fait d'être armé, pour préciser, incite, enfin, génère plus de candidats, on va dire, au poste de policier.
Mais c'est surtout que sans proposer cet armement, il n'y a plus de candidature, voilà, dans bien des cas.
Sophie Rigard, vous, quand on est sur le terrain et qu'on constate, voilà, que la sécurité est une préoccupation majeure pour les habitants sur tout le territoire, mais surtout pour les habitants des quartiers, notamment à Saint-Denis, qu'est-ce qu'on propose et pour quelles raisons aussi vous êtes-vous opposé à l'armement de la police municipale décidé par le maire ?
Bah, quand on discute un peu avec des habitants des quartiers, ils nous disent que l'image de la police qu'ils ont, eux, c'est la BAC. C'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est des interventions parfois extrêmement violentes. C'est aussi avec des chiens. C'est-à-dire qu'il y a des... on nous raconte des policiers qui lâchent des chiens sur des jeunes juste pour s'amuser, pour faire rire. Des policiers qui courent après des jeunes dans les quartiers avec des violences, etc. Des personnes qui ouvrent leurs fenêtres et qui, d'un coup, prennent une bouffée de gaz lacrymo. Donc, en fait, c'est déjà... une situation extrêmement tendue avec une vision de la police, une unique vision de la police qui est déjà extrêmement stigmatisante. Et là, en fait, la stratégie de Mathieu Hanotin que je critique fondamentalement, c'est qu'il avait ici l'opportunité de créer une police, en tout cas de conforter une police qui soit radicalement différente de la police nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'il faut réformer la police nationale et j'ose espérer que là, dans le débat à l'approche des présidentielles, ça va aussi être un effet d'accélérateur de tout ce qu'il faut réformer dans la police nationale. Mais en tout cas, en tant que maire, en tant qu'élu local, en tant que qu'élu en proximité d'un certain nombre d'habitants, il avait cette responsabilité de pouvoir construire justement une police différente. Alors il y a quel choix on peut faire. Déjà, plutôt que d'armer, moi je préfère la présence. C'est-à-dire que ce qui ressort beaucoup des enquêtes, notamment qui sont faites par l'Institut Paris Région, c'est que c'est la question de la présence en fait qui peut rassurer. C'est pas du tout de voir qu'il a un 9 mm à la ceinture ou un flashball. Donc cette présence, en fait, qui peut apaiser, qui peut rassurer avec des personnes qui sont potentiellement connues, avec qui il y a un dialogue qui peut s'instaurer, ça, donc c'est ce qu'on appelle communément la police de proximité, ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on peut davantage aller plutôt que de renforcer en fait, l'arsenal répressif que constituent des armes. Et il faut savoir, enfin, il n'y a pas juste l'armement. Hein. Mathieu Hanotin a décidé de créer des brigades canines, des brigades cynophiles, renforcer aussi toutes les caméras de vidéosurveillance. Donc c'est à peu près une petite centaine, 80 000 caméras de vidéosurveillance qui devraient encore compléter l'arsenal actuel. Un centre de supervision urbain. Il aurait voulu avoir des drones. Pour l'instant, c'est pas possible. Il faut le cadre réglementaire qui est prévu par ailleurs dans la loi sécurité globale. Il veut étendre les compétences de la police municipale, donc ce qui est l'article 1 de la loi sécurité globale, pour que les policiers aussi s'occupent du trafic de drogue, peut-être à terme. C'est aussi quelque chose qu'il a pu énoncer. Il voudrait que la police municipale fasse la verbalisation des clients, des consommateurs de drogue, donc ce qui aussi est particulier en termes de culture à gauche, c'est-à-dire que ça divère totalement de ce que...
Justement ?
En quoi ? Bah, parce que la verbalisation des consommateurs de drogue, c'est une proposition qui est faite sous le mandat Macron, qui a été proposée par un rapport parlementaire qui, en fait, a tous les attraits d'une pure logique à la fois répressive sur des publics qui ont, en fait, besoin d'aide et d'accompagnement social, en fait, et par ailleurs, qui est une logique purement de rente financière pour Bercy, en fait, tout simplement, parce que c'était pas assez efficace d'avoir, enfin, tout le système juridique qui fonctionnait avant, en fait, engorger les tribunaux. Et là, on se dit, bon, bah voilà, on va mettre des amendes aux consommateurs de drogue et on se dit que ça va solutionner le problème. C'est quand même, on sait jamais sur quel pied danser avec Mathieu Hanotin. Il fait une campagne avec Benoît Hamon pour la légalisation du cannabis et après il veut verbaliser les consommateurs de drogue, donc on n'y comprend plus grand chose. Mais, en tout cas, c'est cet enjeu de construire, une police différente. Et il y a un point, moi, qui m'interpelle un peu, c'est que, cette logique de faire une police alors que on peut tout à fait avoir des agents de proximité qui n'aient pas un uniforme de police, qui ne soient pas armés et qui soient dans le dialogue pour autant. Donc il y a l'exemple des ASVP sur Paris, donc, qui gèrent les problèmes de stationnement, etc. À Saint-Denis, il y a beaucoup de problèmes de stationnement, du stationnement sauvage, sur les pistes cyclables, etc. C'est un vrai sujet. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un policier armé pour régler ce genre de choses ? À Saint-Denis, on a eu une expérience qui est assez intéressante, ça s'appelle les brigades vertes, une brigade de l'environnement. Et en fait, c'était des personnes, des agents de proximité, qui, si on renforçait leurs prérogatives, si on leur permettait de verbaliser, pourraient tout à fait faire les missions qu'aujourd'hui vont avoir les policiers municipaux, c'est-à-dire verbaliser quelqu'un qui jette un détritus dans la rue, verbaliser un stationnement sauvage. Et en fait, ces missions-là, on le dit, c'est-à-dire que c'est de la tranquillité publique, c'est du cadre de vie, c'est de l'environnement, c'est comment on se sent dans une ville. Et cette manière d'en faire quelque chose de répressif, avec un uniforme de policier, avec l'autorité que ça constitue, la défiance que ça constitue. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, Mathieu Hanotin, il dit qu'on est dans un contexte où les gens veulent des policiers. Moi, je vois plutôt un contexte où aujourd'hui, les gens, et notamment les habitants des quartiers populaires, remettent en cause aujourd'hui une pratique d'une certaine police nationale et la police, enfin une police de manière générale. Et tout ce que fait Hanotin, c'est les rendre identiques.
C'est-à-dire, pour vous, ça va tendre encore plus les rapports police-population, parce que c'est aussi cette question de l'armement, c'est ce que ça dit aussi en fait de la perception qu'on a de la police, de la confiance qu'on lui accorde.
Bien sûr. Alors ça renvoie à l'effet de l'arme, en fait. C'est Paul Rocher qui a écrit sur le fait que armer un policier, qu'il soit municipal ou pas, va être plus enclin, en fait, à régler un problème par la force, par l'autorité, et beaucoup moins par le dialogue. Et ça, moi, ça me préoccupe énormément. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est une vraie question éthique, en fait, d'une certaine manière, de se dire, est-ce qu'en société, on peut aussi régler les problèmes en discutant, de manière plutôt apaisée? Et oui, on n'est pas cette distorsion totale d'autorité, de pouvoir, de puissance symbolique, parce qu'on a un gun à la ceinture, quoi. Enfin, c'est une certaine conception de la vie en société qui, moi, voilà, clairement n'est pas la mienne. Et quand on a, effectivement, on parle de défiance, parce que quand on écoute les témoignages des personnes qui aujourd'hui vivent dans les quartiers et vivent des situations qui sont compliquées, je vois pas comment faire une police municipale qui ressemble pour deux gouttes d'eau, qui a quasiment les mêmes missions maintenant, les mêmes armes, le flashball, etc., puisque Hanotin arme en flashball, donc une police municipale qui a exactement les mêmes missions et les mêmes armes et les mêmes attributs, moi je vois pas pourquoi on aurait un élan de confiance et d'amour pour les policiers municipaux, quoi.
Face à ce, on l'a dit, un contexte de plus en plus sécuritaire, notamment du fait des attentats qui se sont produits en France ces dernières années, est-ce que, et aussi du coup le fait que la sécurité c'est un enjeu électoral majeur, est-ce qu'il est possible pour la gauche ou pour tout autre parti finalement de proposer autre chose qui puisse fonctionner et auquel les citoyens puissent adhérer, si tant est qu'ils adhèrent déjà ou pas à cette logique sécuritaire?
La question des alternatives au modèle que vous évoquiez, mais la question au-delà de l'armement, hein, d'ailleurs, enfin la question du modèle de police. Et quels que soient les services considérés, municipaux, nationaux, les gendarmes, cette question du modèle me paraît effectivement centrale, la question des modèles véhiculés, de la manière dont les policiers municipaux, nationaux investissent leur job, c'est tout à fait fondamental, en gros. Et les polices municipales peuvent peut-être avoir une carte particulière à jouer sur ce plan-là. Comment sortir des rapports d'adversité ? Parce que c'est de ça dont vous parliez d'une certaine manière. Comment casser, pour le dire comme ça, ces schémas que les sociologues de la police ont depuis mais fort, fort, fort longtemps mis en évidence en France comme ailleurs, des schémas qui font que, à force d'interactions hostiles, conflictuelles, les policiers tendent à se... Et on peut les comprendre, hein, en termes psychologiques, c'est du réflexe défensif. Les policiers ont tendance à se murer, pour le dire comme ça, dans une logique de mise à distance, de fermeture au public, aux gens considérés comme des ennemis potentiels. Il y a ce rapport-là, sauf que ce réflexe de repli interne, qui tente à renforcer l'unité même des policiers entre eux, mais ce réflexe de repli interne, eh bien, il a évidemment pour effet pervers d'alimenter plus encore le climat de défiance mutuelle et les tensions.
Alors, et qui va à l'encontre de l'exemplarité que l'on attend d'eux à terme.
Ça peut effectivement. Donc comment on en sort, vaste question. C'est bien compliqué d'y répondre. Il y a évidemment des enjeux de formation majeurs en la matière, on le pointe souvent. Il y a aussi, et ça fera peut-être écho à des éléments que vous évoquiez tout à l'heure, on le dit moins souvent, des enjeux d'ancrage territorial. Et c'est là-dessus que les polices municipales ont quand même des atouts potentiellement. une force potentielle d'être, de se déployer à l'échelle locale. Mais l'ancrage territorial, ça ne relève pas de l'évidence. Ça se travaille. Hein. Ce n'est pas parce que les polices municipales sont locales que nécessairement et spontanément, j'allais dire, elles jouent justement cette carte de la proximité. En tout cas, un enjeu d'ancrage territorial, d'insertion partenariale, de lien avec les publics, mais je dis bien les publics au pluriel, dans leur diversité, parce que se rapprocher de la population avec laquelle la police est déjà en affinité, d'une certaine façon, ça porte en germe le risque de renforcer plus encore des logiques de domination sociale ou de stigmatisation de populations qui sont déjà désignées comme indésirables. Donc, tout ça, ça se travaille. C'est pas simple. C'est facile à dire de là où je suis. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre. C'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut abandonner ces objectifs-là. En tout cas, la composante préventive et relationnelle, elle est centrale, elle est censée en tout cas être centrale dans le travail des policiers, mais là encore, quel qu'il soit, dès lors qu'on parle de la sécurité publique. Le renseignement, le maintien de l'ordre, la police judiciaire, ok, là c'est encore autre chose. Mais qu'il s'agisse des gendarmes, des policiers nationaux, des policiers municipaux en sécurité publique, cette composante préventive est centrale. Ils ont tout intérêt à l'investir, ne serait-ce que pour mieux gérer les situations conflictuelles, mais aussi parce que c'est un levier, je vais dire ça comme ça, pour améliorer l'image de la police vis-à-vis de la population, donc pour travailler la confiance. C'est aussi un levier pour renforcer la satisfaction professionnelle des policiers eux-mêmes. Enfin, ça, c'est très net dans les retours que je peux avoir de la part de, j'allais dire vieux de la vieille, mais parce que souvent, ce sont plutôt des vieux de la vieille. Il y a aussi des jeunes policiers qui sont des militants de la proximité. Mais enfin, globalement, les militants de la proximité en police, ils sont quand même assez marginaux. Mais les retours de ces agents-là, de ceux qui sont bien intégrés, je vais le dire comme ça, dans leur territoire d'intervention, eh bien, ces retours-là font montre d'une plus grande satisfaction professionnelle, souvent d'un sentiment d'utilité et de reconnaissance plus fort. Et voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils laissent faire, qu'ils sont laxistes, que je ne sais pas quoi, qu'ils n'interviennent pas, mais ça veut simplement dire que cet ancrage, cette connaissance du territoire et des milieux permet de créer les conditions d'une intervention policière plus sereine, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire mieux maîtrisée, mais aussi apaisée. Et ça, ce sont des conditions de légitimité, mais aussi d'efficacité policière. Mais voilà, ça suppose d'abord une volonté politique forte, stable, dans la durée, et puis ça soulève aussi tout un tas d'enjeux, pas simples, là encore, à travailler sur le plan du recrutement. Bah, oui, quel type de profil on sélectionne, après tout, ça c'est une question. Des enjeux sur le plan de la formation, comment on travaille la philosophie d'intervention, parce qu'il y a une nécessité de revenir constamment sur ces exigences-là. Des enjeux sur le plan de l'évaluation, bien sûr, vous utilisez le terme d'évaluation tout à l'heure, qui est souvent évaluation souvent défaillante sur ces sujets-là dans le cadre français, mais pas qu'en France d'ailleurs. Là encore, au-delà des indicateurs purement quantitatifs et répressifs, comment on peut justement faire en sorte de valoriser, de mieux récompenser ce travail des sens relationnels, les liens partenariaux, etc. Et puis des enjeux qui me semblent fondamentaux et souvent oubliés aussi de pilotage, de gouvernance de ces politiques de sécurité et de l'action policière, quoi. Une gouvernance, un pilotage à ouvrir davantage peut-être, alors à la fois aux partenaires, aux autres acteurs qui ne sont pas nécessairement policiers, et puis une fois encore à la population dans sa diversité.
Sophie Rigard, dernière question. Entre le besoin de sécurité exprimé par les habitants des quartiers, leur crainte aussi des violences policières et de leur rapport avec la police, comment dessine-t-on une voie à gauche et une voix, pour être caricaturale, qui ne soit pas perçue comme laxiste, et là je suis caricaturale exprès pour clôturer l'émission là-dessus, sur les alternatives, sur cet équilibre à trouver en fait.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment justement cette question de de l'efficacité réelle de ce qu'on vise, et donc d'évaluation et de pouvoir dire ça fonctionne pas, c'est pas ce qu'on vise, quoi, d'une certaine manière, et de pas cette exigence aussi de pas juste de pas mentir aux gens, puisque c'est aussi totalement irresponsable. Moi, je trouve totalement irresponsable de la part de Mathieu Hanotin de dire que de donner des flashballs à la police municipale qui doit régler des problèmes de dépôt sauvage, de dépôt de déchets. Je vois pas à quoi sert un flashball pour régler un problème de dépôt sauvage. Je vois pas à quoi sert un flashball pour faire fuir un vendeur à la sauvette, puisque c'est aussi ça la priorité de Mathieu Hanotin, c'est faire déguerpir les vendeurs à la sauvette, en particulier du secteur garde et du secteur République basilique. Et là, c'est aussi un vrai sujet. C'est-à-dire que Mathieu Hanotin dit qu'il est pour la sécurité aussi, pour les personnes défavorisées. C'est faux. Enfin, je veux dire, les policiers municipaux qu'il recrute sont sur un secteur central très spécifique du centre-ville et absolument pas dans les quartiers. Donc, exiger la vérité sur ce qui est réellement fait, exiger que les politiques soient mesurées et que on ne puisse pas reprendre des décisions si l'efficacité n'est pas prouvée. Je pense notamment à l'arrêté anti-chicha aussi, puisqu'il a pris un arrêté anti-chicha dans l'espace public en août. On n'a toujours pas en fait le nombre de plaintes déposées par des gens pour des nuisances sonores dues à la chicha, et on va lui demander très précisément combien de verbalisations ont été passées sur ce pour ce fait-là. A priori, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais voilà, c'est être hyper exigeant sur ces questions-là. Et c'est, je pense très clairement, là, dans la perspective politique beaucoup plus large, à la fois des régionales, mais aussi des présidentielles, c'est poser vraiment la question de quelle police, quoi. Quelle police on veut ? Pourquoi deux polices si elles sont identiques ? Puisque c'est vraiment ce vers quoi on s'amène. Pourquoi une police serait-elle forcément nationale aussi ? Enfin, je pense que c'est peut-être intéressant de se poser cette question-là. On a souvent cette image de une police ne peut être que nationale, et ça se justifie sur certains points, mais on se rend compte à quel point c'est compliqué d'avoir un contrôle démocratique citoyen d'une institution nationale qui est très opaque. Donc, est-ce que pourquoi pas réfléchir, comme ça se fait dans d'autres pays européens aussi ou ailleurs, à une police, une seule police, qui pourrait être locale, locale à voir l'échelle, mais une échelle qui permet de construire justement ce pouvoir de contrôle citoyen démocratique sur cette institution. Moi, c'est vraiment, c'est les sujets que je souhaiterais voir émerger dans le débat public. C'est évidemment voilà des sujets qui sont quotidiens à Saint-Denis. Et je pense que, enfin, moi j'ai une éthique clairement que doit à mon avis se fixer la gauche aussi, c'est intégrer la complexité. Moi je supporte pas en fait des réactions démagogiques. Pour moi la démagogie c'est un attribut plutôt de la droite et des instruments une dérive démagogique ça sape aussi toute démocratie et toute croyance au fait qu'on puisse avoir une politique de sécurité, y compris qui fonctionne.
Intégrer la complexité. On va retenir ça pour clôturer cette émission. Virginie Malocher, merci beaucoup. Merci. Sophie Rigard, merci d'avoir été parmi nous et de nous avoir apporté tous ces éclairages. C'est la fin de ce 6e épisode de Quartier Direct, l'émission du Bondi Blog et de Mediapart. Merci de nous avoir suivis.